16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre. 2 heures pour réconcilier vos neurones et vos zygomatiques autour de 3 personnages de l'histoire avec l'expertise de nos invités, de nos chroniqueurs et la bonhomie potage de Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 80e numéro aujourd'hui d'Historiquement Vôtre. Je crois qu'on peut être fier du travail accompli. J'imagine parfois, vous savez, Arnaud Lagardère nous écoutant dans sa voiture en ramenant ses enfants de l'école en se disant « Tiens, c'est parfait, une émission rieuse, mais avec du fond, de l'histoire abordée quand même de manière sérieuse. » Et j'imagine sa tête quand il entend des choses comme...
L'indice de poil des filles a recommencé à augmenter légèrement depuis 2012.
Écoutez, j'ai l'impression aussi. C'est en train de refluer ce truc.
On nous a dit, on veut de l'histoire décomplexée, on a embauché des chroniqueurs décomplexés qu'on va vous présenter dans un instant. Stéphane, mais d'abord, un mot de nos 3 personnages du jour.
Oui, cet après-midi, comme dit la chanson, on réunit des filles au masculin.
Un garçon féminin, une fille au masculin.
Oui, 3 dames qui se sont changées en hommes. La première se faisait appeler Jean. C'est Jeanne Barret qui s'est déguisée en homme pour faire ce qu'elle n'aurait pas pu faire sinon, le tour du monde en aventurière. Je vous parlerai ensuite d'Aurore Dupin. Vous la connaissez, Mathieu ?
Je crois qu'Alfred de Musset la connaissait un peu mieux que moi.
Oui, 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 bien sûr. Bravo, c'est un homme de lettres. Si je vous dis Georges Sand, un nom qui a marqué la littérature, évidemment. Et derrière ce nom d'homme, une femme qui l'a choisi pour avoir plus de chances d'être publiée. Et ça a marché. Et de votre côté, vous évoquerez une femme vivante qui chante et danse habillée comme un homme.
Oui, elle s'appelle Héloïse, mais on la connaît sous le nom de Christine and the Queen. Et désormais, elle s'appelle Chris. Elle appelle ça la fluidité des genres.
Et avec nous, comme chaque après-midi, la rutilante Brochette qui est aussi dans la fluidité des genres. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et plus précisément, bonjour messieurs, dans la fluidité de l'habillage. Alors j'ai une question pour vous. Combien de temps mettez-vous à vous habiller le matin, là, tous autant que vous êtes à peu près
10 minutes.
En
10
gros.
Minutes
ouais,
une douche
à
la prise.
Un peu sans la douche. Non, je parle de l'habillement.
Habillement, pour
moi,
vous habiller.
Moi, je pense que vraiment, parce que je prépare le soir, je pense que je mets 30 secondes pour m'habiller.
Il prépare le soir.
Le soir.
Hein
c'est ça, là.
Je prépare le soir pendant
50 minutes. Et ensuite, mais non, mais parce que parfois, bah, je vous raconte pas m'habiller. Je me réveille très tôt. Je suis du matin, moi. Je travaille efficacement le matin. Donc, je me réveille très tôt, je veux déranger personne. Et donc, pour ne pas faire de bruit, c'est dans le dressing.
Moi, 10 secondes, parce que je m'habille absolument toujours pareil. Donc,
c'est de qui voulez-vous nous parler?
Je vais vous parler d'un homme qui, lui, prétendait que tous les matins, pour s'habiller, lui fallait 5 heures, donc vous m'amusez avec vos 30 secondes. C'est Georges Brummel, le créateur du dandysme, le britannique réputé pour avoir été l'homme le plus élégant de son époque. Et il était particulièrement maniaque sur les cravates. Or, Georges Sand, Rosa Bonheur, toutes ces dames qui s'habillaient en homme, eh ben, l'accessoire indispensable quand on veut passer pour un homme, c'est la cravate.
Bien sûr.
Alors justement, on va passer dans un autre vêtement avec vous, David Cassel-Lopez.
Tout à fait, c'est le soutien-gorge de sport.
Le soutien-gorge de sport.
Tout à fait, quelque chose
qui est vraiment dans des trucs de niche. Quoi.
Mais oui, mais alors dites ça aux femmes pour lesquelles ça a révolutionné le jogging.
Bien sûr, enfin, Stéphane a quand même de mimer le geste à l'antenne.
Non, mais c'est vrai, mais toutes mes copines le disent, c'est vrai que c'est pas.
Je sens que vous avez encore mené une enquête pointue.
Après la cravate et le soutien-gorge, je serais curieuse de connaître la recette.
Lui a-t-il mené une enquête tout aussi pointue sur le biscuit?
Je vais vous parler du biscuit et plus particulièrement du biscuit de mer.
Oh oui.
D'où est-il né?
Tout le monde cherche les sous-entendus.
Non, mais vous parlez de la gaufre de mer?
Bien sûr, de mer à Lille.
Moi, je vous parle du biscuit marin.
Du biscuit marin.
Pour les gens qui n'ont pas trop de moyens, Olivier, et pour ceux qui ont les moyens d'aller chez mer, ben, effectivement, Stéphane vous donnera l'adresse. Éventuellement, un code réduction.
Je sais que vous les connaissez bien.
Mais ça m'est arrivé une fois dans ma vie, j'en ai goûté. Enfin, les amis, si certaines femmes se déguisent en hommes, il serait bon que parfois certains perdants se déguisent en gagnants. Une idée que je donne comme ça en passant à Stéphane.
Mais pourquoi vous dites ça, Clémentine? Vous me reprochiez hors antenne de trop gagner ces derniers temps.
Oui, c'est-à-dire vous avez trop gagné, c'est vrai que ça nuit à mes lancements. Mais tout de suite, découvrons l'incroyable destin de la première femme à avoir fait le tour du monde déguisée en homme. Stéphane Bern nous raconte Jeanne Barret.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Peu de gens connaissent son nom, retenez-le désormais, Jeanne Barret. La première femme à avoir fait le tour du monde. On a d'ailleurs bien failli ne jamais le connaître, ce nom, tant la jeune bourguignonne a tenté par tous les stratagèmes de dissimuler son identité pour échapper aux lois interdisant aux femmes de naviguer. Déguisée en homme sur un navire de la marine royale, elle a su pendant plus d'un an tromper un équipage pourtant suspicieux pour vivre la plus incroyable aventure de son temps et assouvir sa soif de liberté et de découverte. L'histoire débute au milieu du XVIIIe siècle en Bourgogne. Rien ne laisse présager qu'elle va nous emmener si loin, nous faire voguer des jours entiers sur les mers du bout du monde. Jeanne Barrène est très loin des splendides eaux claires de la Polynésie. À la Comelle, précisément, en Saône-et-Loire, un jour de la fin de juillet 1740, c'est-à-dire sous le règne de Louis XV. Mathieu, vous situez bien sûr. Hein.
Absolument.
Ses parents sont de pauvres agriculteurs, probablement illettrés, très simplement prénommés Jean et Jeanne. De l'enfance et de l'éducation de la jeune fille, on ne sait presque rien. Elle commence à travailler très tôt, aidant dans les maisons les plus fortunées. C'est là qu'elle rencontre en 1764 un certain Philibert Commerson, récemment veuf et chargé de son petit garçon. Il est botaniste et médecin. Jeanne gère les affaires du ménage et de fil en aiguille assiste Philibert dans son travail. Elle l'aide à ranger ses documents, à classer ses échantillons de végétaux et l'assiste sur ses chantiers horticoles. Au fil du temps, elle lui devient indispensable. Leur lien ne reste sans doute pas purement professionnel. Jeanne tombe enceinte, probablement de Philibert, même si rien n'est officialisé. Commerson est ambitieux et c'est avec l'idée de faire carrière qu'il part s'installer à Paris avec Jeanne dans ses bagages. Il s'y fait un nom et rejoint bientôt, en tant que naturaliste, l'équipe de Louis-Antoine de Bougainville, officier de marine et explorateur qui travaille à préparer son tour du monde. Le voyage, qui doit durer 2 ans, est commandé par le roi. Il s'agit de restituer les îles Malouines aux Espagnols et de passer le détroit de Magellan en s'attribuant au passage les terres qui les intéressent. Par ses nouvelles fonctions, Commerson a droit à un valet. Il souhaite que Jeanne continue de l'accompagner. Leur enfant n'a pas survécu, hélas, la jeune femme est donc totalement libre de jeter les amarres. Oui, mais voilà, en 1766, une femme n'est pas admise sur un bateau de la marine française. Tout contrevenant dans l'équipage risque la suspension et même les fers. C'est donc Jean, un jeune homme, qui se présente le 1er février 1767 au port de Rochefort pour embarquer à bord de l'Étoile, le second navire de l'expédition. Personne ne se doute un instant que derrière son accoutrement, le valet de M. Commerson n'est autre que Jeanne elle-même. Elle a coupé ses cheveux, comprimé ses seins sous des bandes de lin pour dissimuler sa poitrine, tout en conservant sa tenue de valet. Les premières semaines se passent sans encombre. La quantité de matériel que nécessite le travail de Commerson lui donne le privilège d'une grande cabine, celle que le capitaine en personne lui a cédée. Jeanne, alias Jean, bénéficie donc d'une plus grande intimité que si elle couchait parmi les membres d'équipage. Elle peut notamment utiliser des toilettes privées. Malgré toutes ces précautions, le doute s'installe parmi les hommes à bord. On voit bien que ce valet n'a pas de barbe, passe énormément de temps dans sa cabine, évite les regards et les discussions. Il refuse de se changer ou de faire pipi devant les autres. Au passage de l'Équateur, Jean ne participe pas aux célébrations d'usage et garde ses vêtements. Selon certains témoignages, le valet tente de faire taire la rumeur en racontant être eunuque. Est-ce convaincant ? Quoi qu'il en soit, le voyage se poursuit. Jeanne débarque à Rio, puis à Montevideo. Partout, elle aide Philibert, gêné par une blessure à la jambe. C'est elle qui ramasse des plus hautes montagnes du détroit de Magellan aux plus profondes forêts des îles australes, sur les terrains les plus escarpés, la plupart des milliers de spécimens rapportés de l'expédition. Elle travaille tant et si bien que le botaniste lui-même lui attribue l'affectueux surnom de « bête de somme ». C'est aussi ce qui lui permet l'habit d'homme, approcher un travail, des compétences, des connaissances inaccessibles alors aux femmes. Et puis bien sûr, voyager. Jeanne est la pionnière absolue, la première à doubler la terre de feu. Au printemps 1768, l'Étoile amarre au large de Tahiti. Une escale bienvenue pour les marins que des jours et des jours en mer ont usé. Jeanne quitte le trois-mâts pour herboriser le nouveau territoire comme elle l'avait fait en Amérique du Sud. Mais cette fois, les choses tournent mal. À peine le domestique est-il sur le rivage, raconte Bougainville lui-même dans son journal, que les habitants l'entourent, crient que c'est une femme et veulent lui faire les honneurs de l'île. Il fallut que l'officier de garde vienne lui porter secours et l'escorte jusqu'au bateau. Terrorisée, Jeanne Barret regagne le navire. Plus d'un an après son départ, elle est finalement découverte. Elle sait que sa faute est grave. Elle risque d'être abandonnée au milieu de l'océan Pacifique et son cher Philibert encourt lui aussi de lourdes peines. la décision appartient désormais au capitaine Bougainville. Que s'est-il passé, Mathieu, pour que la féminité de Jeanne Barret saute aux yeux des Tahitiens malgré son vêtement d'homme ? Sans doute le déguisement n'était-il pas parfait. Mais alors, comment a-t-il suffi à tromper jusqu'ici un équipage pour ne pas révéler totalement son identité ? Car si d'autres récits du voyage de Bougainville laissent penser que Jeanne a pu être démasquée avant Tahiti, elle a tout de même réussi à tromper son monde pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, il nous paraît fort improbable qu'un simple pantalon dissimule une identité. Mais dans l'Ancien Régime, pour des Occidentaux convaincus que l'habit fait le moine, il n'est pas envisageable de se travestir à tel point que le vêtement a ce pouvoir de nier l'évidence. Et puis, l'attitude de Jeanne pendant tout le voyage contredit tous les clichés sur le caractère féminin. Comment reconnaître une femme dans cet infatigable barret ? Demande sincèrement Bougainville. Découverte, Jeanne obtient la clémence du grand navigateur. Elle poursuit même le voyage jusqu'à Île-de-France, aujourd'hui l'île Maurice, avec Commerson qu'elle a réussi à disculper en affirmant qu'il n'était pas dans la combine. Le couple y travaille plusieurs années jusqu'à la mort de Philibert en 1773. Le botaniste laisse une rente à Jeanne, nouvelle preuve de son attachement tout particulier à ce valet fidèle. Jeanne se marie l'année suivante avec un officier. Rentrée en France, elle obtient même une pension royale pour son travail et son courage. Jeanne Barret ne réenfilera plus jamais d'habits d'homme, des habits qui lui ont permis de vivre l'expédition la plus incroyable de sa vie. Il aura fallu attendre presque 2 siècles, mais en 2012, on a donné son nom à une petite fleur à 5 pétales et aux fruits orangés poussant sur les hauteurs du Pérou, la Solanum Barretiae. Une fleur qui rend parfaitement hommage à l'intrépide Jeanne Barret. Une fleur avec des feuilles dont la forme change tout le temps, forcément.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de cette formidable aventurière qu'était Jeanne Barret, nous sommes avec Christelle Mouchard. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christelle Mouchard, vous êtes écrivain spécialisé dans l'aventure au féminin. Vous venez de publier L'aventurière de l'étoile, Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition Bougainville aux éditions Talendier. Jeanne Barret, on vient de le voir, est vraiment prête à tout pour pouvoir embarquer pour ce tour du monde. Qu'a-t-elle pu éprouver au moment d'embarquer ? Elle était excitée, mais elle avait peur aussi d'être démasquée, sachant ce qu'elle risquait ?
Écoutez, il faut d'abord rappeler que Jeanne n'a pas laissé de mémoire ni de correspondance. C'était une petite paysanne d'origine très pauvre. Mais on sait qu'au premier jour de son embarquement, elle a eu surtout un très violent mal de mer. Ça arrive au plus grand. Mais ça ne l'a pas dégoûtée, au contraire. En fait, c'est une certitude car on sait qu'une fois arrivée en Amérique, qui était la première étape du voyage, elle aurait pu faire demi-tour. Elle en a eu l'occasion. Le cousin de Bougainville, qui était à bord, a fait demi-tour dans ces conditions, parce qu'à cause du mal de mer, lui aussi. Elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de continuer l'aventure, quelles que soient les conditions. Donc on peut en déduire que l'expérience lui avait plu.
Il y a quand même quelques inconnus dans ce récit. La raison première qui la pousse à faire ce voyage, c'est de suivre, de rester aux côtés de Philippe Commerson, ou c'est plutôt de découvrir le monde, ou encore de montrer ses talents en matière de botanique. C'est quoi la raison principale qui la pousse à prendre ce risque ? Finalement, c'est quand même un grand risque à l'époque.
Alors bon, il y a quand même une part de mystère, hein. C'est une certitude. Ce n'était pas une femme soumise. Elle a fait son choix en connaissance de cause. Et la suite de l'aventure, montre qu'il y avait un peu toutes ces raisons mélangées. En tout cas, une envie de partir qui, effectivement, est en cela extrêmement remarquable, surtout de la part d'une petite paysanne, c'est-à-dire de quelqu'un dont on ne connaît a priori pas bien justement les sentiments.
Justement, vous parlez de sentiments, Christelle Mouchard, mais est-ce qu'on peut parler d'histoire d'amour entre Jeanne Barret et Philippe Commerson, ou simplement d'une relation qui était devenue professionnelle ? Parce que c'est vrai qu'au moment où on découvre sur le bateau que Jeanne Barret est une femme, Commerson, il fait plutôt preuve d'une grande lâcheté en disant « moi j'y suis pour rien, moi j'étais pas au courant, je suis pas dans la combine ».
Pendant très longtemps, il y a eu l'interprétation de cette histoire d'amour absolument romantique et perdue entre le maître et sa servante. Maintenant, c'est le contraire. On a plutôt tendance à traiter Philibert Commerson de lâche à cause de l'attitude qu'il a eue au moment de la découverte de Jeanne. Mais en fait, il ne faut pas le juger trop durement. Moi, je pense qu'aucune de ces deux interprétations n'est la bonne. Il faut savoir que Philibert Commerson risquait plus que Jeanne. À cette époque-là, les femmes, et les servantes encore plus, étaient considérées comme de grands enfants. Toute la responsabilité reposait vraiment sur les épaules du maître, donc de commerçant. D'ailleurs, il est remarquable que Jeanne ne soit pas entrée dans ce rôle de faible femme irresponsable. C'était le plus facile pour elle, c'est de se dire « mais c'est pas ma faute, c'est la faute de mon maître, c'est lui qui m'a obligée à partir ». C'était ce qu'il y avait à l'époque de plus crédible. Or non, elle a tout assumé. C'était une évidence que Commerçon savait qui elle était. Mais non, elle n'en a pas démordu, elle n'a jamais cessé d'affirmer que Commerçon ne savait rien et que c'était elle qui avait décidé de partir. Et ça, c'est véritablement remarquable. Et Bougainville, le premier, l'a admirée pour cela.
Jeanne sur le bateau est donc Jean. Elle est habillée en homme. Est-ce qu'elle est aussi forte que les hommes présents? J'ai envie de dire oui. Et surtout, on a l'impression qu'elle a quelque chose, même non seulement elle fait le jeu égal avec les hommes, mais on a l'impression, au dire même de Bougainville lui-même, qu'elle a quelque chose en plus qu'eux.
Alors, la force en soi n'est pas vraiment un avantage pour survivre pendant 2 ans sur ce genre de navire autour du monde, dans des conditions absolument incroyables. En fait, même aujourd'hui, toutes les femmes qui ont navigué le savent, en fait. Il faut parler plutôt de résistance physique et morale, d'endurance, d'aptitude aussi, ça c'est très important, d'aptitude à s'adapter au groupe. Et ça, ce sont des qualités que Jeanne avait. On la montre en terre de feu, en train d'escalader les montagnes dans des froids peu descriptibles, marchant dans la boue. On la montre aussi dans les forêts du Brésil, portant les paniers, les spécimens, enfin tout le matériel nécessaire pour botaniser ce qui est très lourd. Donc ça, ces qualités sont une certitude. Mmh. Et c'est certainement grâce à ses qualités qu'elle a fait croire qu'elle était un homme. Parce qu'on n'arrivait pas à imaginer qu'une femme puisse avoir ses qualités.
Bien sûr. Et justement, Christelle Mouchard, vous intéressez en général aux femmes aventurières. Elles sont en fait toutes différentes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui les rapproche? Et qu'est-ce que Jeanne Barret avait de particulier par rapport aux autres aventurières dont on a parlé ici, notamment des Anglaises qui sont embarquées dans des tours du monde?
Alors, oui, c'est vrai que quelque chose les rapproche. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de faire la comparaison entre les aventurières que je connais et Jeanne. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est le désir de partir. Plus que ça. Une envie brûlante, insurmontable, presque douloureuse. Une envie de partir qui se cogne contre les obstacles que la société oppose aux femmes. Jeanne, à la différence des autres, n'a pas pu exprimer cela par écrit. La seule parole qu'on connaisse d'elle à ce sujet a été recueillie par Bougainville. Il écrit dans son journal, alors là j'ouvre les guillemets, « Elle m'a dit que ce voyage avait piqué sa curiosité ». Alors bien sûr, c'est un euphémisme propre à l'époque, hein, traduit en langage actuel. Et il s'agit bien de ce désir insurmontable de passer par-dessus tous les obstacles pour partir.
C'est aussi un voyage politique à l'époque. Hein, on est sous le règne de Louis XV. C'est pas juste un simple voyage de sympathique botaniste. Hein, y a une portée politique.
Oui, bien sûr. Le voyage de Bougainville, missionné, enfin, sur ordre du roi, organisé par les ministres, les plus grands savants et tout, était effectivement un voyage qui avait. Bon, les raisons diplomatiques sont assez complexes. C'était vis-à-vis de l'Espagne, de l'Angleterre, un peu pour sauver la face, parce que la France avait été obligée de céder les Malouines qu'elle avait conquises. Donc, c'était une forme de revanche et il fallait absolument que ce voyage soit réussi.
À un moment, je racontais la clémence de Bougainville. Pourquoi Bougainville, il ferme les yeux? Enfin, il ferme les yeux, il sait que c'est une femme, il l'a découvert, voilà, après Tahiti, et il accepte qu'elle reste sur le bateau.
Selon moi, tout tente à montrer que Bougainville savait dès le départ que Jeanne était une femme. Bougainville est sans doute des personnes plus haut placées.
Moi, je pense que tout le monde le savait, que tout le monde a
joué le jeu.
A joué le jeu, non? C'est pas votre sentiment, Christelle Mouchard?
Oui, bien sûr, tout le monde le savait. Tout le monde l'a su dès le milieu, on va dire, de la première étape. Ce qui est remarquable, véritablement étonnant, c'est que Jeanne a effectivement expliqué aux matelots, enfin vraiment les hommes d'équipage, les gabiers, les gens les plus simples, qu'elle était réellement un homme à qui il était arrivé des malheurs dans sa jeunesse. Et donc, un eunuque, quoi. Voilà, un eunuque. Elle a réussi à les convaincre. C'est ça qui est le plus remarquable. Alors bon, c'est pas son aspect physique qui les a convaincus. Ce qui les a convaincus, c'est sa façon de participer aux manœuvres, de monter, de descendre, de porter, de... Et aussi, ce qui est cité à plusieurs reprises, de lancer des gaudrioles.
Elle était potache un peu.
Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment éloigné de cette image romantique des deux amants embarqués. Hein. C'était une femme qui devait ressembler aux servantes de Molière. Hein. Elle avait le verbe haut et elle l'a mis en pratique au milieu de l'équipage. Et ça a convaincu ces hommes. Et à force de se trouver bien parmi eux, elle a réussi à être un membre d'équipage comme les autres, un bon compagnon.
Voilà, elle s'est imposée aussi par ses talents. Merci beaucoup Christelle Mouchat. Je rappelle le titre de votre livre, L'aventurière de l'étoile, Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition Bougainville, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous en dévoile quelques secrets souvent croustillants. Clémentine Portier-Kaltenbach, vous nous parlez cravate aujourd'hui. Oh, pas celle du notaire, mais celle au pluriel d'un certain Georges Brumel.
Mais oui, parce que l'accessoire vestimentaire, je dis l'accessoire vestimentaire, je précise parce que Mathieu est capable de tout. Donc vestimentaire de la masculinité.
Moi je n'ai rien dit, c'est Stéphane qui nous a traîné là. C'est Stéphane qui a fait des références.
Vous êtes deux collégiens, deux enfants de cœur.
Mais alors moi je déteste ça, l'humour potache n'est pas.
Moi je vois vos yeux qui frisent.
Je m'adapte pour Stéphane, effectivement.
Alors donc ça a longtemps été la cravate et les dames que vous évoquez aujourd'hui, en s'habillant en homme bien sûr, elles prenaient elles aussi, elles utilisaient des cravates. Mais le dieu absolu de la cravate, bien sûr, c'est Georges Brumel, donc le sujet de sa gracieuse majesté. Il est né en 1778 et dès qu'il était enfant, déjà, il se faisait remarquer par la correction, l'élégance de sa tenue. Il venait pas pourtant d'un milieu très privilégié, il avait un grand-père qui était confiseur, Brumel. Hein. Donc, il venait plutôt d'un milieu modeste, mais son père était le secrétaire d'un lord et son père avait réussi à accumuler une fortune suffisante pour pouvoir envoyer Georges à Eton, la pension de la gentry britannique. Et alors, après Eton et Oxford, Georges rentre dans un régiment de hussards et c'est là un peu la chance de sa vie, c'est qu'il est placé sous les ordres du prince de Galles, qui a alors 32 ans, et qui se prend d'affection pour lui parce qu'il apprécie la gaieté, l'humour, l'impertinence de Brumel surtout. Alors le prince de Galles, lui, s'attiffe un peu n'importe comment. Parfois, on le voit, il ressemble à un sapin de Noël, il a des habits roses, des chapeaux à sequins avec un peu des pampilles, si vous voulez. Il ne sait pas tellement s'habiller. Et c'est Brumel qui va lui apprendre à s'habiller. Mais comment faire pour frayer avec un prince qui dépense quasiment 3 millions de livres par an pour ses vêtements quand on n'en a que 30 000, ce qui est le cas de Georges Brumel? Eh ben, c'est pas compliqué. Il faut éviter toute excentricité. Et c'est ça, la patte Brumel, une simplicité impeccable. Alors, il ne sort jamais de chez lui autrement que parfaitement lavé, rasé, parfumé, vêtu d'un linge immaculé et soigneusement amidonné. Et puis la final touch, bien sûr, c'est un manteau à la coupe irréprochable. Alors, il y a la tenue du jour, la tenue du soir, le matin, pantalon boutonné, gilet, redingote de couleur claire et bottes. Et le soir, habit bleu, gilet blanc, pantalon noir très collant, tellement collant qu'il faut des valets pour aider à les enfiler, hein, et qu'on peut pas s'asseoir quand on les porte. Et puis, bas de soie et chapeau claque. Alors, ainsi, tiré à quatre épingles, il devient l'arbitre des élégances et puis il anime un petit club de riches amis que Byron va surnommer le club des dandys. C'est de là que vient l'expression. Et à l'époque, si vous allez chez votre tailleur à Londres, tout le monde vous dit, écoutez, il faut choisir comme le prince de Galles pour la veste et comme Brumel pour le pantalon. Et alors, les bottes, bien sûr, c'est aussi un accessoire important. Un jour, fasciné par l'éclat de ses bottes, un admirateur de Brumel lui demande quelle est sa marque de cirage. Du cirage? Mais vous n'y pensez pas, m'a dit. Je ne cire mes bottes qu'avec de la mousse de champagne. Ben voyons. Alors, mais c'est surtout, bien sûr, dans la manière de mettre ses cravates que Brumel opère une véritable révolution. Avant lui, on portait la cravate simplement nouée autour du cou avec un nœud mollement lâché. Mais lui, le premier à utiliser c'est l'emploi dans la cravate. L'emploi, c'est comme l'amidon, hein. Mais là où il excelle surtout, c'est dans la manière dont il exécute son chef-d'œuvre. Si le nœud n'est pas parfait du premier coup, il jette immédiatement sa cravate. Alors, on voit souvent son valet de chambre qui se balade avec une corbeille pleine de cravates blanches, plus ou moins fripées. Ce sont nos erreurs, dit-il. Parfois, Brummel peut essayer 30 cravates avant d'être satisfait de son nœud.
Moi aussi, ça m'étonne pas.
Mais comment faites-vous pour vous habiller en 30 secondes si vous essayez 30 cravates avant
de mettre les bonnes? On a arrêté de porter des cravates.
Personne n'en porte. Hein. Alors, Brummel, il aime pas monter à cheval justement à cause de ça, parce que ça dérange sa cravate. Il n'utilise que des chaises à porteurs, bon, parce que ça protège sa cravate et ça lui permet aussi d'éviter la boue. Évidemment, avec le temps, il va passer son temps à courir après le train de vie de ses amis beaucoup plus riches que lui. Bientôt, il est criblé de dettes. Il est obligé de quitter l'Angleterre en 1816. Et où atterrit-il?
En France.
Voilà, chez nous, exactement.
Boulevard Haussmann.
Non, je plaisante. Non, pas Boulevard Haussmann. Et son parcours qui s'achève très tristement, parce que comme il a même plus les moyens de se payer un blanchisseur, il se met à porter des cravates noires. Vous vous rendez compte? Ça, c'est encore jamais fait. Mais quelle tragédie, Brummel, avec des cravates noires.
Il n'avait pas de métier.
Mais oui, c'est ça, on comprend pas ce qu'il fait dans la vie.
Parce qu'il a fait Eton, il a fait Oxford, il est allé chez les hussards du prince de Galles.
Il a carbonisé sa rente, d'abord avec parcimonie, il jouait beaucoup.
Pourquoi il travaillait pas, il a pas de métier.
Il était aussi entretenu par des amis, si vous voulez, comme il bambochait avec ses copains dandy qui la plupart du temps devaient payer les notes de resto.
Il aurait pu créer sa gamme de vêtements.
C'était ça justement sa marque de fabrique, c'est des vêtements très simples et pas trop chers. Alors bon, de toute façon, alors, en vieillissant, évidemment, il peut moins faire attention à sa tenue. D'abord, il souffre de démence due à la syphilis. Il est interné au Bon Sauveur à Caen. Et il est mort le 30 mars 1840, peu avant ses 62 ans. Il est inhumé au cimetière protestant de Caen, sous le campus de l'université. Si vous voulez aller lui rendre hommage un jour à Brummel, quand même, Stéphane.
Merci Clémentine, c'était passionnant comme toujours.
Vous ne bougez pas Clémentine, vous restez avec nous. Stéphane, vous êtes prêt? Peut-être s'échauffer un peu avant. Neurone droit, neurone gauche, neurone du milieu,
Encore.
On va pouvoir passer au quiz.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Quand elle se dresse face à vous, Stéphane, chaque après-midi vers 5h-10, avec dans son regard la détermination froide du guépard s'apprêtant à bondir et choper au cou la frêle gazelle, vous savez très bien ce que ça signifie.
On va couper le zizi de Napoléon.
Non, on va jouer à Burn to be Alive, et pour l'un des deux protagonistes, c'est vrai, c'est aussi douloureux.
C'est moi la gazelle.
À Burn to be Alive. Je ne sais pas qui est la gazelle et qui est le guépard, puisque ces derniers temps, vous gagnez souvent, Stéphane. Première question, elle est pour vous, c'est la tradition. Alexandre le Grand avait pour maître Aristote, ça vous le saviez évidemment, qui avait pour maître lui-même Platon, qui avait lui-même pour maître Socrate. Vrai ou faux?
Vrai.
Vous avez gagné!
Oui, effectivement, c'était une belle chaîne comme ça de professeurs. Philippe de Macédoine a bien confié l'éducation de son fils à Aristote. Aristote a été l'élève de Platon, ce dernier pensant que les choses impérissables de l'esprit sont la réalité première de l'univers, alors que pour Aristote, cette même réalité première se trouve dans les choses matérielles et surtout, il voulait le dernier iPhone. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach, chère Clémentine, vous avez 543 amis, en tout cas sur Facebook. Ma question est la suivante. Est-ce que l'abbé Pierre a vécu suffisamment longtemps pour s'inscrire sur le réseau social Facebook? Oui ou non?
En quelle année est-il mort, l'abbé Pierre? Il y a bien 10 ans, me semble-t-il.
Oui, mais Facebook existe déjà depuis 10 ans.
Facebook existait déjà, je pense qu'il aurait pu être sur Facebook. Ouais. Ça va se jouer à très peu, j'imagine.
Moi, je pense aussi.
Sur Facebook, mais pas sur Tinder. Sur Facebook, c'est une bonne réponse. L'abbé nous a quittés en 2007. Facebook est né, vous le savez, en quelle année? Moi, je me souviens très bien parce que je me dis ça marchera jamais. Et je me dis, dès que je me dis
ça ne marchera jamais,
vous pouvez être sûr que c'est le plus gros succès commercial de l'univers qui va avoir lieu derrière. Despacito, la chanson. On l'avait reçue en avance à Europe 1, j'ai dit ça, c'est éculé, ça prendra jamais. Hop, Despacito, le plus grand clip de l'histoire.
Ah, vous avez de l'intuition.
Et alors, Facebook, pareil. Ouais, 2004, les amis. En 2004. Et je rappelle que si vous voulez faire un don à Emmaüs, eh bien, vous pouvez le faire sur le site emmaüs.solidarité.org. Question 3 pour vous, Stéphane. En 1988, Mylène Farmer obtient une victoire de la musique. Ce sera la seule de sa carrière. Autre injustice, malgré 5 nominations, Gandhi n'a jamais eu le prix Nobel de la paix. Vrai ou faux?
Je ne pense pas qu'il ait eu le prix Nobel.
Je ne pense pas non plus.
Je crois qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix.
Gandhi n'a jamais été prix Nobel de la paix?
Je ne crois pas.
Vous ne croyez pas ou c'est votre réponse?
Non, je ne sais pas.
Vous dites c'est vrai. Gandhi
c'est vrai.
N'a jamais eu le prix Nobel de la paix.
C'est vrai. Vous avez
gagné. Et oui. Il a même été nommé en 48, quelques jours avant son assassinat. Du coup, cette année, le comité n'a pas décerné de prix Nobel en raison, je cite, « candidat vivant approprié ». Ils ont mis cette légende-là. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. On sait que Louis III est mort parce qu'il poursuivait une fille à cheval. Enfin, quand je dis « on sait », je m'avance un petit peu. Je dirais que certains spécialistes de l'histoire et du règne de Louis III en particulier le savent. On sait qu'il poursuivait une fille à cheval et que, un peu trop fougueux, il n'avait pas vu le haut d'une porte où il s'est encastré violemment. Louis III était l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne. Vrai ou faux, Clémentine ?
Arrière-arrière-arrière, j'essaie de réfléchir à combien de temps a duré la dynastie carolingienne avant qu'on passe à Hugues Capet. Est-ce que sur trois générations, c'est suffisant ? Parce que les Mérovingiens, c'est 165 ans. 265 ans, c'est-à-dire autant d'années écoulées entre Louis XVI et François Mitterrand. Est-ce que les Carolingiens... Donc ça aurait pu faire 4-5 générations.
Là,
il est possible
calculs,
qu'il ait été l'arrière-arrière-arrière petit-fils de Charlemagne, why not ? Je ne connais pas Louis III, donc s'est-il encastré sur une allée cavalière
C'était pour votre culture personnelle, je vous le dis.
Je vous remercie, j'ignorais cette histoire. Donc je répondrai oui, parce que je ne comprendrai pas le sens de cette histoire autrement. Oui. Donc
Moi, je répondrai oui aussi.
Vous avez perdu.
Louis III était l'arrière-arrière petit-fils tout court de Charlemagne, et non pas l'arrière-arrière-arrière.
Ah,
il y avait un arrière de trop, Clémentine.
Ah, voilà mon erreur,
ce quiz
bien
a
sûr.
Été réorienté pour vous permettre de perdre et Stéphane de regagner.
C'est ce que je comprends. Je me suis trompé d'une génération sur les Carolingiens.
C'est ce qui permettait de savoir, c'est les dates de naissance
C'est ce qu'elle a fait.
De Louis III. Que vous connaissez les dates de naissance de Louis III.
Je connais ça par cœur, naturellement. Oui. Mais
alors, Louis III est né, donc, si vous voulez, entre 863 et 865.
Charlemagne est couronné en 800. C'est absurde, qu'est-ce que c'est que cette question ? Le couronnement de Charlemagne, c'est 800.
Oui,
l'autre ne peut pas être son arrière-arrière-petit-fils. je réclame le point, là. C'est
il
n'importe quoi.
Il est le
quoi.
Fils de Louis II.
Ah bah ça, merci.
Louis II, qui est né, je vous donne ses dates, en 846 et qui est mort en 879. Louis II est lui-même le fils de Charles II le Chauve. Oui, c'est l'arrière-arrière-petit-fils, c'est ça, de Charlemagne.
Mais les dates que vous m'avez données sont aberrantes.
Parce qu'ils vivent très peu.
Alors c'est Charlemagne qu'il a eu à 12 ans, c'est ça son arrière-petit-fils ? Non mais attendez, non, ça va pas du
c'est
tout.
C'est pas moi qui fais le quiz.
J'en appelle aux autorités municipales.
C'est moi l'autorité, je décide qu'on fait une ultime question et celui qui gagne, hop, a gagné. Okay. Et le quiz est plié, c'est comme ça. On remet les compteurs à zéro, Stéphane, tout se joue ici. Mais on va parler de Jackie Kennedy, donc vous imposer. Attention, c'est la question de rapidité. On ne répond qu'une fois que j'ai donné toutes les propositions possibles. Le père de Jackie Kennedy, John Vernou Bouvier III, adorait sa fille. Mais après le mariage avec JFK, il ne l'a pas accompagnée à la sortie de la cérémonie. Pourquoi ? Trois propositions. 1. Parce qu'il voulait faire pression sur JFK car des rumeurs d'infidélité étaient déjà bien établies. 2. Parce que c'est lui qui chantait dans l'orchestre pour accompagner la sortie des jeunes mariés. Ou 3. Parce qu'il était déjà rond comme une queue de pelle.
3.
2.
3. Il était rond comme une queue de pelle. Dès qu'on parle d'alcool et de Jackie Kennedy, Stéphane Bern triomphe. Effectivement, ce bon vieux John Vernou était rond comme une queue de pelle. Il avait une tendance à boire beaucoup et sa fortune diminuait fortement.
Voilà.
Il courait les jupons. Il ressemble vraiment beaucoup à JFK.
C'est toute la différence entre nous. Moi, je l'imagine chanter dans le cœur des vierges et vous bourrer à la sortie de l'église.
Voilà. C'est Stéphane qui emporte.
C'est la vérité historique qui l'emporte, ma chère Clémentine.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bon, la fois où pour la fête du CE d'Europe 1, j'avais décidé de me grimer en femme avec force de rouge à lèvres, de rimmel et un décolleté audacieux, j'ai compris à la réaction de Stéphane que le résultat n'était pas probant.
Bravo, ça donne très envie.
L'inverse est souvent beaucoup plus réussi, à savoir des femmes qui se changent en hommes. C'est le point commun de nos trois personnages, c'est ta famille, dit Stéphane.
Oui Mathieu, après Jeanne Barret, l'aventurière, qui a été contrainte de devenir Jean Barret pour embarquer sur un bateau et devenir ainsi la première femme à effectuer le tour du monde, je vais vous parler d'une écrivaine qui s'appelait Georges Sand.
chante, bien sûr. Et quant à vous, Mathieu, vous allez nous parler d'une chanteuse française devenue une star en quelques années et qui, elle, se fait appeler Chris.
Oui, moins de genre, moins de manière, c'est elle qui le dit. La chanteuse au look volontairement androgyne, Christine X and the Queens. Mais pourquoi ces métamorphoses physiques et patronymiques, par plaisir ou par acte militant? Peut-être les deux, mon capitaine.
Eh oui, à quoi ça tient le genre? Enfin, oublions les gens et parlons des talents avec nous, eh bien, nos chroniqueurs. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines d'un objet que vous connaissez bien, le soutien-gorge de sport.
Est-ce que vous savez bien les dégrafer? À mon avis, vous avez pas mal galéré, vous.
Les soutiens-gorge de sport ne se dégrafent
non,
pas.
Non, je ne vous parle pas de soutien-gorge de sport. J'élargis le sujet au soutien-gorge tout court.
Vous êtes
bon.
Je pense que oui.
D'une main
ça m'est arrivé, oui, peut-être. Mais bien sûr. Quoi, je sais plus quoi dire.
Oh, il est tout rouge, il est rouge sous son masque.
Il était champion de son école de dégrafage de soutien-gorge.
J'ai l'impression
qu'on essaie de convoquer les souvenirs qui se viennent dans la tête. Et là, on est à la radio, c'est pas possible.
Et aujourd'hui, vous nous parlez du soutien-gorge de sport qui a changé la vie des femmes.
Qui a changé la vie des femmes, en tout cas de celles qui voulaient faire du sport.
Le mot de la fin, c'est vous, Stéphane, qui l'aurez comme d'habitude. Et justement, une expression, faire du gringue. On l'utilise plus beaucoup, Stéphane, je vous informe, hein, elle a le mérite d'exister.
Elle a le mérite d'exister. Ce sont des expressions un peu désuètes. Eh bien, j'aime bien remonter aux sources.
Lui se déguise souvent en femme.
Hors de soirée, coquine.
Olivier Pouls est pourtant notre maître queue, notre spécialiste gastronomique.
Et je vais vous parler des biscuits, vous savez, des petits biscuits secs.
Pourquoi les biscuits?
Mais les petits biscuits secs, parce qu'on approche de Noël, et qu'à Noël, il est de tradition de faire des petits biscuits secs, comme ça. Vous pouvez les faire et les garder, d'ailleurs.
Dans des boîtes en fer blanc.
Voilà, et puis je vous dirai d'où ils viennent. Ils viennent pas forcément de Noël.
C'est d'ailleurs vraiment la France du temps jadis qui est réunie autour de cette table aujourd'hui.
Mettez un petit coup d'accordéon,
non, je l'ai pas en stock. Démarrons cette deuxième heure d'Historiquement Vôtre avec l'histoire d'un Georges pas comme les autres. Stéphane Bern nous raconte le destin de Georges Sand.
Europe 1, 16h-18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
On a dit de George Sand qu'elle était une femme de mauvaise vie. Son crime? Fumer le cigare et porter le pantalon. Au 19e siècle, c'est vrai, ça se fait pas. Et surtout, c'est interdit depuis une ordonnance signée du 16 Brumaire en 9, ou pour nous, le 7 novembre 1800. Mais la romancière éprise de liberté ne l'entend pas de cette oreille, ni de l'autre d'ailleurs. Si George Sand n'est pas sensible aux conventions, c'est sans doute parce qu'elle a grandi dans une famille inhabituelle. Son père, Maurice Dupin de Franqueuil, est un aristocrate et sa mère, Victoire, une fille du peuple dont l'écrivaine raconte qu'elle a dû se prostituer dans sa jeunesse. La petite Aurore, c'est son vrai nom, apprend à naviguer entre ces mondes si différents. Elle s'adapte, se déguise. L'un de ses premiers souvenirs est lié aux apparences. À 4 ans, Aurore rejoint son père, militaire, à Madrid. Elle y est présentée à Joachim Murat en personne, le grand maréchal d'Empire. Pour l'occasion, la petite fille reçoit un uniforme, une merveille selon Sand elle-même, qui le décrit des années plus tard dans son « Histoire de ma vie ». Un dolman, vous savez, ces vestes dont les tresses dorées forment comme des rayures, l'uniforme des hussards et surtout un pantalon en fin lainage, en casimir comme on dit alors. La tenue n'est pourtant pas très confortable. Aurore est ravie de retrouver sa robe de soie dans l'intimité de ses appartements. Il n'empêche, l'habit d'homme reste associé à ce souvenir éblouissant. Elle a beaucoup plu à Murat, qui l'a surnommé son petit aide-de-camp. La même année, son père meurt d'un accident de cheval alors que la famille a regagné le domaine de Nohant où vit la grand-mère d'Aurore. C'est dans ce château du Berry qu'elle va passer son enfance et son adolescence. Loin de la ville et de ses conventions, Aurore est autorisée à s'habiller en garçon. Elle porte le sarrau, la blouse des paysans, une redingote et une casquette. Elle peut courir dans les champs et battre la campagne, monter à cheval, à califourchon et s'adonner à sa passion de la chasse. À l'époque, les filles sont entravées par des vêtements encombrants, de lourds et longs jupons et un terrible corset. Aurore refuse obstinément cet instrument de torture. Elle coupe les lacets qui servent à le serrer et, comme on insiste, elle le jette dans un tonneau de vin. Son précepteur, qui a des méthodes un peu originales, la soutient dans cette rébellion. Et sa grand-mère, convaincue par les thèses de Rousseau sur la nécessité de libérer les corps des enfants de ces vêtements trop serrés, la laisse faire. Dans le voisinage, Aurore n'est pas seule à ne pas suivre les règles. On rapporte le cas d'au moins deux autres familles très respectables où les jeunes filles sont laissées libres de leur tenue. L'adolescente a pourtant conscience que cela ne se fait pas. Dans une lettre à une amie, Aurore assure que personne ne risque de la voir ainsi affublée tant elle vit isolée.
Sa motivation n'est donc pas de choquer ou de créer le scandale. Non, non, c'est bien de vivre sa vie. À 18 ans, Aurore épouse Casimir Dudevant, avocat à la cour. Très vite, la relation s'envenime. En 1830, elle quitte Nohant pour Paris où l'attend un nouvel amant et sa carrière d'écrivaine. Mais elle ne quitte finalement pas, même en ville, le pantalon. Là non plus, il n'est pas question de provocation. En choisissant un pseudonyme masculin, ce qui n'est pas rare mais pas obligatoire, George Sand poursuit une discussion entre le féminin et le masculin qui accompagne toute sa vie. Elle se présente dans ses textes indifféremment sous l'un ou l'autre sexe, et c'est également de cette manière que ses amis s'adressent à elle. Enfant, sa grand-mère, rendue inconsolable par la perte de son fils, l'appelait parfois de son prénom, Maurice, et lui donnait sans détour ce rôle auprès d'elle. « Tu me consoleras de la perte de celui à qui tu dois la vie. » Le pantalon est une réminiscence de ce brouillage des genres. Plus prosaïquement, il permet à la jeune George de se faufiler partout, de sortir dans les rues de la ville sans chaperon, d'observer et d'écouter des conversations inaccessibles aux femmes. C'est ce qui nourrit son œuvre. Et puis, ce jeu autour du genre lui permet d'être prise au sérieux. On ne la classe pas parmi les auteurs femmes, mais parmi les auteurs tout court. Car si les femmes peuvent écrire, le talent est, pense-t-on alors, une affaire d'homme. George Sand est reconnu par ses pairs, Balzac et Victor Hugo en tête. Enfin, la tenue d'homme plus sobre permet des économies. Un avantage pratique mais aussi symbolique. Le pantalon hérité des sans-culottes doit servir l'égalité, ce qui ne manque pas de séduire l'écrivaine aux idées républicaines. Pour autant, George Sand ne passe pas sa vie en pantalon. Elle s'intéresse aussi beaucoup, ses lettres en témoignent, aux robes et aux tissus qui font la garde-robe d'une femme. Sa mère était ouvrière en mode au Palais Royal. Sur beaucoup de portraits, de dessins faits par Alfred de Musset notamment, l'un de ses amants, elle apparaît féminine et apprêtée. Elle suit les tendances dans le journal des modes et le petit courrier des dames. Mais elle réclame surtout le droit de s'habiller comme elle l'entend, sans en demander la permission. Car s'il peut lui plaire en certaines occasions, George Sand sait que le vêtement féminin empêche les femmes au quotidien. Dans son roman « Gabriel », George Sand fait découvrir l'enfer de cet habit étouffant, gênant, indécent à son héroïne, élevée comme un garçon. La romancière n'est pas à proprement parler féministe. Elle souhaite simplement vivre sa vie selon ses désirs. En 1835, un journaliste qui lui déconseille de se travestir, George Sand répond « Je prétends posséder aujourd'hui et à jamais la superbe et entière indépendance dont vous seuls, les hommes, croyez avoir le droit de jouir. » À la fin de sa vie, dans les années 1870, George Sand était encore très loin de voir l'avènement du pantalon pour les femmes. Mais une chose est sûre, elle lui a ouvert la voie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de George Sand, nous sommes avec une grande comédienne qui lui a redonné vie sur scène. Bonjour Macha Meryl.
Bonjour.
Bonjour Macha. Bonjour. On va parler.
Bonjour Stéphane.
On va parler de George Sand avec vous dans un instant. Mais si vous deviez la définir d'un mot, un seul mot, ce serait lequel ?
Ah, je dirais que c'est une femme supérieure. Et je pense que toutes les femmes un peu hors du commun ont été inconvenantes. Quand je pense à Colette, qui elle-même aussi s'habillait en homme, quand je pense à toutes les femmes qui ont un peu défrayé la chronique et qui ont fait leur œuvre contre l'époque, elles ont toujours été un peu scandaleuses. Et puis surtout, une femme libre dans sa tête. Parce que pensez qu'elle était croyante et socialiste. Elle était casanière et voyageuse. Elle était une grande amoureuse et une femme fidèle. C'est ça qui est formidable. Elle ne s'est jamais enfermée dans des limites morales ou des limites comme ça de convenance.
Alors, on va parler de George Sand dans le détail, évidemment, avec vous. George Sand s'est glissé dans la peau d'un homme. Vous êtes glissé dans la peau de George Sand sur scène. Le spectacle, c'est Feu sacré. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on parle à la place de George Sand, Macha Meryl?
Non, ce qui est extraordinaire, c'est le privilège que nous avons, nous, les actrices et les acteurs en général, c'est d'interpréter quelqu'un qui a vraiment existé. Alors, premièrement, naturellement, je me suis trempée dans son œuvre, j'ai à peu près tout lu. La chose la plus formidable de George Sand, c'est Histoire de ma vie. Oui. Elle a inventé le genre, hein. L'autofiction, c'est elle qui l'a inventé, parce qu'elle était la première. Très jeune, elle avait encore que 40 ou 45 ans, c'est-à-dire que c'était pas une mémoire, vous savez, à la fin de sa vie, à la Bonne Dame de Nohant. Non, elle a écrit ça beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'elle a compris que sa vie était une chose intéressante et qu'elle avait besoin de la transmettre. Et donc, quand tout d'un coup, je disais ces mots, parce que c'était un spectacle, hein, c'était formidable, c'était mis en scène par Simone Benmussa, qui nous a quittés, et j'étais en couple avec un pianiste, qui est Jean-Marc Luzada, puisque nous avons traité particulièrement son histoire d'amour avec Chopin. Et je pense que c'est la grande histoire d'amour de Jean Lassalle, qui a connu beaucoup d'hommes et beaucoup d'amour, mais à juste raison. Elle était curieuse. Il fallait qu'elle aille voir un peu ce qui se passe. Et donc, elle a rencontré des hommes extraordinaires dans sa vie. Elle est allée les chercher. Vous savez, la vie qu'on a, c'est la vie qu'on veut bien avoir. Moi, je pense que c'est une leçon pour tout le monde, ça. Il faut aller se frotter avec les personnes intéressantes dont on est curieux.
Oui, mais enfin, elle rencontrait des gens passionnants. Vous
oui,
citez
tout
Chopin.
Le monde pas Chopin,
Musset. Elle avait des amants qui étaient...
Alors, avec Musset, c'était une histoire sur la perversion. Elle a découvert... Parce que c'était un salopard, hein, Musset. Ouais. C'était un type... Et d'ailleurs, qui lui a tout piqué. Parce que toutes les œuvres théâtrales de Musset sont toutes inspirées de thèmes que lui a soufflé Jean Lassalle. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais... dans les gens qu'elle a rencontrés, il y avait des gens bien et des gens pas bien. Mais elle est allée au charbon, je ne sais pas comment vous dire. Elle n'a pas eu peur.
Macha, j'ai l'impression que vous vous identifiez beaucoup à George Sand. J'ai l'impression que, oui. que c'est une femme qui vous a inspiré et que la manière dont vous menez vous-même votre vie a un certain rapport avec la manière dont Sand a mené la sienne.
Ah ben vous me faites plaisir, parce que c'est vrai que ça a été une rencontre importante pour moi. Quand j'ai joué ça et quand j'ai commencé à réfléchir sur cette façon qu'elle a eue de vivre, je me suis autorisée moi-même certaines libertés. Je pense que c'est ça ce qui se passe dans la culture. Vous voyez, c'est ça, les vraies belles rencontres qu'on fait, c'est avec des personnes qui vous précèdent et qui vous ont osé. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime chez elle, c'est surtout ça. C'est que c'était vraiment un cerveau, c'était une intellectuelle. Contrairement à Colette, qui était une femme plus instinctive, que j'ai interprétée aussi, et avec beaucoup de plaisir. Mais Colette, c'est différent. Elle a eu l'instinct de la liberté. George Sand, non. C'était une femme qui réfléchissait. Et puis en plus, qui voulait rencontrer des beaux esprits. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait autour d'elle des personnes qui pouvaient la modifier. Et elle a changé au cours de sa vie. Vous savez, c'est ça la chose importante. Non seulement on a le droit de changer, mais on doit changer au cours de sa vie. Parce que c'est pas vrai qu'on peut être insensible à tout ce qu'on lit, à tout ce qu'on on voit autour de soi. Donc c'est pour ça que la culture, vous voyez, vous me voyez venir, je pense que vraiment on peut pas nous priver de ça. C'est-à-dire que la culture, c'est ça, c'est notre vie à nous. C'est comment est-ce qu'on va se transformer au cours de la vie, au cours de toute
Sur les questions d'héritage, justement, parce que George Sand a été une pierre importante dans l'édifice de l'émancipation des femmes. Et vous-même aussi, vous vous inscrivez dans cette filiation.
Oui, alors, justement, là où je lui ressemble, j'espère, c'est que nous n'avons pas été des militantes. Moi, je ne suis pas inscrite dans aucun de ces mouvements féministes. Je crois à l'exemple. Je crois qu'il faut faire de sa vie quelque chose que les autres regardent et qu'ils pensent que si moi j'y arrive, peut-être qu'eux vont y arriver aussi. Et même si on prend des coups, d'ailleurs on en prend, hein, je peux vous garantir, mais si, malgré ça, c'est justement la force de l'exemple. Et George Sand, elle a été vraiment... elle s'est mobilisée, c'est-à-dire que même dans ses amours, elle a eu le culot de dire... qu'elle les a aimés, tous ces hommes, les uns après les autres, même si c'était presque au niveau de l'expérience. C'était presque scientifique chez elle. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'elle
trouve
des occasions de se développer.
Moi, je suis allé au monastère de Valdemossa, sur l'île de Majorque, où elle est allée, mais c'est un endroit éblouissant.
Alors la malheureuse, elle croyait que ça faisait du bien à Chopin.
Oui, mais non, ça l'a tué.
Et que malheureusement, à l'époque, on croyait qu'il fallait aller au ventre. Alors qu'il fallait qu'elle aille à la montagne.
Elle pensait au suivant. Alors bon, en tout cas, vous aussi, là, vous inscrivez, chère Macha Meryl, dans la filiation de George Sand, c'est que vous écrivez merveilleusement bien. Vous avez publié un livre bouleversant qui s'appelle Vania, Vassia et la fille de Vassia aux éditions Liana Levy, dans lequel vous racontez l'histoire d'une émigrée d'origine russe en France.
Bon,
elle vous ressemble beaucoup quand même. Hein. J'ai retrouvé.
Mais je la cite d'ailleurs, George Sand, dans le livre, parce que je suis très éblouie par la façon dont elle est morte, George Sand. Et elle était devant sa fenêtre et elle a dit il faut que verdure, verdure. C'est-à-dire, elle a fait une espèce de test manifestement écologique pour les années à venir. Elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, une atteinte à la nature. Mais c'est pas seulement ça. C'est que je crois qu'on ne peut bien raconter que ce que l'on a vécu soi-même. Mmh. Et au fond, un écrivain... Alors après, il faut trouver la forme. Là, je me suis pliée à la forme romanesque. Et c'est là que j'ai réussi, je crois.
Vous avez bien réussi. Et puis, on attend la réouverture des théâtres. Et j'espère que vous allez reprendre votre spectacle Sorcière avec des textes de Marguerite Duras.
Alors là, c'est formidable. Parce que voilà une autre tranche.
Voilà, non, mais c'est normal.
J'espère qu'un jour, on va parler d'elle.
On vous réinvitera. En tout cas, merci, ma chère Marguerite. C'était une joie d'être avec vous pour parler de George Sand.
Bon, je vous embrasse.
On vous embrasse.
La culture, hein.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces femmes qui se sont déguisées en hommes pour arriver à leur fin, concrétiser leurs rêves ou pour brouiller les pistes. Après Jeanne Barret, Jean et Georges Sand, Georges, vous nous présentez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une femme androgyne plus proche de nous. À vrai dire, une star de la chanson française, on peut dire qu'elle cartonne actuellement.
Effectivement, Stéphane, c'est une artiste à la fois extrêmement populaire et extrêmement appréciée par les Inrock, combinaison rarissime dont je vous parle cet après-midi. Il y a comme ça dans l'histoire de la chanson française quelques chanteuses qui ont fait l'unanimité côté public et côté critique.
Au passage, j'embrasse Lio.
Si vous voulez, ça n'a rien à voir. Mais moi, je vous parle de celle qu'on a connue sous le nom de Christine and the Queens. Aujourd'hui, elle a décidé qu'on pouvait l'appeler plus simplement Chris. On a évoqué le caractère non-genré du surnom Chris qui désormais lui correspondrait mieux, en fait c'est simplement pour aller plus vite au Starbucks au moment où le barista te demande ton prénom. Chris, c'est évidemment une jeune femme au talent ébouriffant, je crois qu'on le sait tous, une capacité à passer du français à l'anglais au sein d'une même chanson qui peut déstabiliser celui qui tente de chanter du Chris sous la douche. Surtout qu'à bien y réfléchir, on ne comprend ce qu'elle dit ni en français, ni en anglais.
Ton visage ne sera jamais entier quand tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, douleur, destin, port à bord.
Ma PlayStation. Ma PlayStation. Enfin bref, un truc comme ça, on comprend rien. On sait que c'est beau. Pas vrai que c'est beau, Stéphane ?
Incroyable.
Ah oui, évidemment, sorti des Kids United, il n'y a plus personne. Eh ben, ma génération, on adore. Chris, anciennement Christine and the Queens, et anciennement encore plus, Héloïse Letissier, naît en 1988 à Nantes. Elle se décrit comme une adolescente Mossad. Est-ce étonnant ?
Il a plu.
Pas vraiment. Dès le collège, elle se sent différente. Elle déclare « L'adolescence est une mini-société où il faut très vite trouver sa place, sinon on n'est rien. Et moi, je n'étais ni la star de la classe, ni franchement la marginale, juste une kid un peu artiste voulant devenir auteur de BD et harcelée parce que bon élève. Je m'achetais de la tranquillité en dessinant des filles à poil pour les garçons qu'ils me demandaient. » Aujourd'hui, ça vaut de l'or, Pouls, hein, c'est de les vendre sur eBay. Mais c'est de l'autre côté de la Manche que cette fan de David Bowie va trouver son mode d'expression artistique. Lors d'un séjour, elle fraye dans l'univers underground des drag queens et dans la moiteur des clubs londoniens où elle croise d'ailleurs des personnes assez haut en couleur qui lui tiennent des propos étonnants.
On peut être gay et franc-maçon.
Avant, Christine and the Queens, qui est alors un projet artistique se proposant de mêler ses trois passions, la danse, la chanson et le dessin. Ce nouveau prénom, Christine, est comme une nouvelle peau. Je répétais le prénom tout bas, avec émerveillement, dans les transports, dans la rue. Christine, je jubilais, je savais quelque chose qu'ils ignoraient encore, j'étais devenue. Son premier album, Chaleur humaine, est un succès immense, notamment grâce à cette sublime reprise de Christophe. Et dans la presse spécialisée, le phénomène Christine and the Queens éclipse rapidement, hélas, l'autre valeur montante du moment, Bern and the Kings.
YMCA in the Navy.
Pourtant, en termes de prod, c'était vraiment kiff-kiff, hein, on a quasiment les mêmes arrangements. En 2018, Christine revient, mais sans The Queens, qu'elle a bazardé en cours de route, car Héloïse Christine Chris est une femme qui évolue et nous fait partager ça à travers ses changements patronymiques qui ont un sens. Chris dit, pour expliquer son choix de prénom non genré, j'ai toujours considéré qu'être une femme était un obstacle. Oh, vraiment, un obstacle à quoi ? Alors, les salaires inférieurs à job équivalent ? Le sexisme ordinaire dans la rue ? À l'objectivation permanente que la société fait de vos corps ? Au fait que c'est vous qui devez toujours penser à la pilule ? Oh, les gonzesses, Stéphane ! Voilà pourquoi Christine est devenue Chris. Et dans cette transformation qui est aussi physique et vestimentaire, je me permettrai un tout petit bémol, le Marcel. Cheveux courts, ok. Style androgyne, rock, ok. Mais, cher Chris, le port du Marcel était-il vraiment nécessaire ? Car effectivement, pour ne pas être genré, le Marcel n'est pas genré, au sens où il est universellement aussi moche sur une femme que sur un homme. À moins d'être un tolard corse musclé dans un film d'Olivier Marchal, le Marcel ne sied à personne et même, je trouve, sape parfois la légitimité. Imaginons un avocat plaidant en Marcel ou Stéphane Bern présentant un numéro de Secret d'Histoire en Marcel. J'ai eu cette vision d'horreur dans la nuit. Est-ce que, Stéphane, est-ce que dans la vie, même chez vous, vous avez déjà porté un Marcel ? Jamais, c'est vrai.
Même sous un sous.
Ah non, mais non, le Marcel, quand on porte un Marcel, il n'y a que ça.
Bah, faut être gaulé pour.
Eh bien, fait unique. Surprise.
Olivier Pouls non plus, il porte pas de Marcel.
C'est Marlon Brando,
quoi.
Ouais. C'est uniquement Marlon Brando ou rien. Et bien dans Chris aussi, finalement, même sur elle, le Marcel, ça passe. Le prestigieux Time Magazine ne s'y trompe pas en lui consacrant un article titré « La pop star qui défie le genre ». On y apprend que l'artiste s'échine à gommer la césure binaire, the binaural seizure, between féminin et masculin. Wow. Elle est à mi-chemin de David Bowie, Indochine et Magloire. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Ils connaissent pas Indochine aux États-Unis. Concernant Chris, ce qu'il faut retenir, Stéphane, c'est que cette jeune femme au look garçon qui ne se vit ni comme femme ni comme homme, mais qui aime tantôt les femmes, tantôt les hommes, dans une pansexualité joyeuse et décomplexée, s'appelait Héloïse à la base. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
Vous me connaissiez en tant que Christine and the Queens.
Voilà, et maintenant, c'est juste Chris.
Et si vous voulez, vous pouvez aussi m'appeler Bob.
Oh bah non, bah non, alors sinon, là, Chris, Stéphane venait de comprendre, nous embrouille pas. Et bonne PlayStation.
Mais elle dit pas PlayStation.
Non mais moi j'entends ça.
Mais elle, dit quoi?
Elle dit You're My Station.
Non, c'est ça. Oui, You're My Station. My Station. Oui, oui. Mais quand on chante en yaourt, moi cette chanson quand elle est sortie, je pensais toujours à la PlayStation et je me dis que
c'est un enfant.
Stéphane, vous l'aviez pas reçu? Elle n'avait pas chanté Véronique Sanson?
Absolument.
Devant vous?
Mais c'était bouleversant.
C'était très très beau.
Très très beau. Oui. Elle a repris pour une spéciale Véronique Sanson que j'avais présentée à la télévision. Elle est venue chanter une chanson de Véronique Sanson.
Elle n'était pas là pour votre spéciale Annie Cordy. Et ça c'est regrettable parce qu'elle aurait pu faire une très très belle reprise de
cette pas tellement son genre, vous voyez.
Ah ben, si, elle aurait pu le décaler, justement, le twister.
Bon, en tout cas, merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous abandonnons nos personnages du jour car nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement vôtre. Celle où enquêter sur le passé nous permet de mieux comprendre le présent que nous vivons.
Une bien jolie manière d'annoncer une réalité souvent moins jolie, surtout quand c'est Castelo Lopez qui mène l'enquête.
Dans Playboy, la première fille dont on voit les poils, elle n'arrive qu'en janvier 1972.
C'est notre inspecteur de l'histoire. Finalement, aujourd'hui, vous nous parlez du soutien-gorge de sport. Ça, c'est vraiment une thématique.
On est remonté un peu plus haut.
Tout à fait, tout à fait. Et on va finir par être cérébraux, vous voyez.
Et un jour, ça viendra. Olivier Pouls est avec nous aussi, Stéphane.
Oui, il va parler des biscuits.
Les petits biscuits secs.
Mais
les biscuits
secs qu'on emporte
en mer ou qu'on peut manger. Oui.
Stéphane, vous aurez le mot de la fin. Faire du gringue, c'est une expression qu'on utilisait souvent sous René Coty.
Oui,
et c'est comme ça que vous draguiez à l'époque. Mais d'où vient cette expression, faire du gringue?
Eh bien oui, je vous le demande.
C'est un secret pour l'instant, vous nous le révélerez dans quelques minutes.
Le mot de la fin, si vous le dites
évidemment,
avant la fin.
Évidemment, je suis obligé de l'annoncer en même temps pour donner envie aux gens de rester.
Bien sûr, j'espère qu'ils vont rester parce que là maintenant, on va parler soutien-gorge.
Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez d'Alerte à Malibu?
Oh oui.
Ah bah oui.
De son générique en particulier. Moi, quand j'avais 13 ans.
Oh là là, mais on a perdu.
Je n'ai jamais compris ce qu'il disait.
Moi non plus, pas non plus. Mais c'était pas si grave parce que moi, quand j'avais 13 ans, regarder Pamela Anderson courir sur la plage et pouvoir analyser les effets de la gravité au ralenti, c'était une des choses qui me faisait dire voilà pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue.
Et tant pis pour Constance.
Exactement. Mais j'avais pas pensé que pour celui qui subit lui-même les effets de cette gravité, eh bien, ça peut être très désagréable. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande de croire mon amie Magali.
En voilà une autre.
Que la nature a rendu particulièrement sujette à ce genre d'épreuve. Alors, j'ai appelé Magali et je lui ai demandé de me décrire la sensation désagréable de courir lorsqu'on a ses attributs. Et ce que j'aime bien avec Magali, c'est qu'elle a une approche scientifique des choses. On l'écoute.
Il faut s'imaginer que tu as sur la cage thoracique deux masses lourdes. Lourdes, oui, je les ai pesées ce matin pour toi, mon cher David. Il y en a un qui fait 380 grammes et l'autre qui fait 411 grammes. Et par exemple, quand tu cours, eh bien à chaque foulée, quand tes seins rebondissent, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'ils descendent, ils descendent un petit peu plus bas à chaque fois. C'est vraiment pas agréable.
Voilà. Mais moi, ce que je me dis, c'est attends, ok, c'est désagréable, mais il y a des soutiens-gorge. Pourquoi ça suffit pas? Eh bien, pour le savoir, pourquoi ça suffit pas, j'ai appelé une autre amie qui s'appelle Sabrina. Une autre. Et qui, comme Magali, sait de quoi elle parle. Elle m'a dit la chose suivante.
Quand on a un simple soutien-gorge et qu'on veut courir pour rentrer dans la rame de métro, ça peut quand même avoir pour effet de faire que la poitrine peut sortir du soutien-gorge.
Mais oui. Pouls va prendre plus souvent le métro.
Voilà, donc quand vous sprintez avec ce genre de morphologie, ce qui vous paraissait jusqu'alors comme une bénédiction devient une malédiction. Et à cause de ce problème, les femmes pendant longtemps n'ont pas pu faire de sport confortablement. Heureusement, aujourd'hui, il y a le soutien-gorge de sport qui maintient tout en place. La brassière. Comme une sorte de ceinture de sécurité et qui permet à des millions de femmes de faire du jogging dans de bonnes conditions. Ce soutien-gorge...
Et parfois de courir plus vite que leur mec, ce qui est extrêmement vexant. Ça, j'envoie un message comme ça, comme une bouteille soleil à la mer, je le dis.
Ça peut être effectivement un petit problème. Ce soutien-gorge, il s'appelle historiquement le jog bra, et en français, vous le disiez, on appelle ça souvent une brassière. Il a été inventé par une dame qui s'appelle Linza Lindahl, et elle raconte que ça a commencé avec une conversation avec sa sœur. Elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais avec tes seins, toi, quand tu cours? Et sa sœur lui a dit, je mets des soutiens-gorge une taille trop petit pour que ça serre plus et que ça comprime. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on est dans les années 70, et il y a un truc qui se passe.
C'est super tard.
Mais oui, très très tard. Et il y a un truc qui se passe aux États-Unis, c'est que le Congrès vote une loi qui dit, en gros, à partir de maintenant, c'est interdit de discriminer sur la base du genre dans les programmes d'éducation qui reçoivent de l'argent public. Et ça, ça a fait que plein de programmes de sport ont été adaptés aux femmes, et ça a fait aussi qu'un plus grand nombre de femmes ont commencé à faire du sport. Et donc, le marché, en quelque sorte, était mûr pour un soutien-gorge de sport. Et Linza Lindahl, elle raconte qu'elle a eu une idée. Vous savez ce que c'est qu'un jockstrap?
Non. C'est ce qu'on fait autour du genou quand on a mal.
Non, c'est ces slips masculins de sportifs qui soutiennent super bien tout, et souvent derrière, c'est juste deux bandes.
Voilà.
On voit les fesses derrière.
Moi, je laisse la nature voilà. Comme elle est. Intacte, Stéphane.
Vous voulez dire, vous n'avez pas de slip, vous avez
comme si,
non, pas de jockstrap. Pas de jockstrap.
J'y vais comme ça, quoi.
Ça s'appelle comment?
Un jockstrap. Les jockstraps, si vous voulez, c'est des sortes de soutiens.
C'est un truc pour les cyclistes?
Non. Non, ça, c'est des cyclistes.
Stéphane, j'aime vos incursions dans le domaine du sport. Elles sont toujours payantes.
Non, les jockstraps, si vous voulez, c'est des soutiens-gorge pour couilles. Voilà. C'est, si vous voulez, c'est ça. Et Linza, elle s'est dit, mais pourquoi on prend pas ça pour les seins? Et elle a fait coudre deux jockstraps ensemble, et ça a donné le premier soutien-gorge de sport de l'histoire. Le succès a été...
Mais c'était des très grosses couilles.
Non, parce que ça ne soutient pas que les couilles. La formule était mieux si je disais que... Mais ça soutient également le reste, et donc c'est une poche. Le zizou. Mais... Les couilles et le zizou. Voilà. Et ce que je me souviens, c'est que mon père en mettait des jockstraps, et qu'il avait un short transparent, et que quand il marchait, on voyait à travers son short un peu ses fesses, et moi j'avais honte, j'allais jouer au tennis avec lui, je faisais, oh non, je fais pas machin.
Que de traumatisme.
Je vais regarder à quoi ça ressemble, parce que. Donc, je vais sortir mon téléphone que vous m'avez confisqué.
Ces deux jockstraps cousus ensemble, ça a donné le premier prototype de soutien-gorge de l'histoire. Elles ont fait finalement, elles en ont fait un vrai à partir de ce principe-là. Ça a été un succès de dingue. Et au bout d'un moment, la ligne de jog bra a été rachetée par la marque Champion, qui est une grosse marque de vêtements de sport aux États-Unis. Et ça a donc permis à des milliers de femmes de faire du sport. Pour finir, je vous propose d'écouter une nouvelle fois Magali, qui explique cette fois-ci pourquoi le soutien-gorge de sport, c'est super.
Un soutien-gorge de sport, il est fait pour être emboîtant, c'est-à-dire qu'il te soutient en bas, mais il maintient aussi le haut. Donc ça fait une coque qui fait que les nichons restent totalement en place.
Voilà, merci Magali, merci Sabrina.
Merci Magali. Un message de votre père à l'instant par SMS. Ce n'est pas mon fils. Voilà, merci beaucoup.
Vous êtes
remis.
Merci David.
Il a du biscuit, lui. 20 ans de journalisme derrière lui. Olivier Pouls arrive pour nous raconter l'histoire du
biscuit.
J'aime quand on atteint ce degré de fluidité.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Je vous livre les dernières phases de Stéphane Bern en antenne. Ça met les fesses à l'air. De quoi parlez-vous?
Je viens de voir la photo du jogstrap.
Et vous avez commandé?
On voit surtout que ça entoure. C'est des bandes comme ça
qui entourent les fesses. Qui entourent les fesses. Côté, c'est une sorte de. C'est une bourse, quoi, si vous voulez, pour mettre. C'est pour
ça. En tout cas, je sais que ça ne mérite pas.
C'est parfait. On parle de bourse, transition idéale, puisque nous parlons gastronomie avec vous, mon cher Olivier Coach.
On peut continuer à faire la fin de l'émission si vous voulez.
On veut nos biscuits pour la mer.
Ouais, exactement, nos biscuits de la mer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Olivier?
Le biscuit de la mer ou le biscuit marin. Ben, vous savez, à partir du Moyen-Âge, arrive de la navigation un peu plus lointaine et un peu plus ambitieuse. Et vous savez que l'un des gros problèmes des marins quand ils partent en mer, à cette époque-là, c'est l'alimentation. Il n'y a pas les boîtes de conserve, il n'y a pas les frigos, il n'y a pas la nourriture lyophilisée. Donc, on ne sait pas très bien comment emporter une nourriture qu'on va pouvoir garder très longtemps. Même la viande séchée, elle finit par pourrir, par moisir. Le pain, il moisit. Et donc, on est contraint d'inventer des produits qui ont une extrêmement longue conservation. Et on va partir sur la base du pain, en réalité, puisque les ingrédients sont les mêmes. Hein. C'est de la farine, un peu de levain, un peu d'eau. Et on va faire cuire cette préparation deux fois. Biscuit. Deux fois cuite.
Alors là, je dis chapeau.
Vous ne saviez pas ça?
Oui, bah, je vous en prie, arrêtez de souligner toujours. C'est ça qui est terrible dans cette vidéo. Il souligne à chaque fois.
Il sait pas ça.
Oui, mais alors que moi, avec la candeur, je le dis, comme ça, vous partagez avec les auditeurs et Stéphane m'enfonce.
On le fait la même chose pour la porcelaine. Quand on la cuit deux fois, on appelle ça des biscuits.
Des biscuits de porcelaine aussi.
Biscuits de porcelaine, biscuits de sève.
Mais bien, écoutez, je le découvre.
Et en cuisant deux fois, eh bien, en fait, on déshydrate bien davantage cette préparation qui devient beaucoup plus solide, plus dure, certes un peu moins confortable à manger, mais surtout qui a une date de conservation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. On peut les tenir jusque 2 ans. Et donc, on emporte ces biscuits. Chaque galette pèse à l'époque environ 180 grammes. Chaque marin en reçoit une lors de chaque repas. Et ça va durer jusqu'en 1937, figurez-vous, l'incorporation de cette ration, de ce biscuit dans la ration du marin. Et en 1937, il est remplacé dans la marine française par le pain cuit à bord, parce que entre-temps, évidemment, la technologie a évolué et on est capable de conserver et d'emmener du pain et de le fabriquer, de le cuire à bord. Mais au 19e siècle, ce fameux biscuit, ben, on va le fabriquer de manière industrielle, mais on va aussi en élargir sa destination.
Mais
on
c'est
va
quoi
pas
ce
le
biscuit
réserver.
C'est le petit lu.
Ben, c'est l'ancêtre du petit lu, parce que vous ne croyez pas si bien dire. Les années 1840, Louis Lefèvre Util, initiales. Ça, c'est voilà, la biscuiterie est créée à Nantes et le petit lu va naître à Bordeaux en 1840, première biscuiterie industrielle avec des biscuits à destination évidemment des marins puisqu'on est là sur des villes portuaires ou pas loin de la mer, mais aussi avec une destination plus commerciale et plus grand public. Petit à petit, aux ingrédients de base, on va se mettre à rajouter du beurre, des épices et différentes choses qui vont agrémenter ce biscuit. Et puis, comme on arrive à Noël, il y a une grande tradition, c'est de faire des petits biscuits secs pour les fêtes de fin d'année. Moi, j'en fais, c'est un petit atelier sympathique, hein, c'est assez rapide. Et la tradition, c'est de les aromatiser à différentes choses. Alors, je vous donne la recette de base. Hein. Vous allez prendre 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre mou, 125 grammes de sucre, 50 grammes de poudre d'amande, un œuf. Et puis une petite pincée de levure et une petite pincée de sel. Vous réunissez tout ça, vous en faites une jolie pâte, vous l'étalez avec un rouleau à pâtisserie sur une hauteur d'environ 0,5 cm. Vous savez, vous mettez des petits emporte-pièces, vous dorez avec un jaune d'œuf et vous pouvez alors aromatiser zeste d'orange, cannelle, vanille, ce que vous voulez. Vous cuisez ça dans un four à 200 degrés pendant 7 minutes et puis vous pouvez les garder parce que c'est un long temps de conservation pendant toutes les fêtes de fin d'année. Dès que vous passez devant la boîte, hop, vous l'ouvrez, tac, tac.
C'est vraiment idéal, déjà, après tout ce qu'on s'est mis pendant les fêtes, vous en avez pendant tout janvier, vous bouffez les biscuits et vous finissez obèse, on peut le dire.
Non, parce qu'après, il va y avoir la galette des rois, vous savez, pour détoxer, qui arrive début janvier. Quoi.
Évidemment.
Voilà. Est-ce qu'il y a des triscuits?
Non, alors j'en connais pas, ni de quadriscuits.
Vous enquêterez.
En tout cas, merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr, on vous retrouve demain.
Sinon, vous pouvez acheter des petits lus aussi.
Non. Dans la table, on les fait soi-même, dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à midi et demi sur Europe 1. Merci beaucoup Olivier.
On voit souvent, après l'émission, David le faire aux stagiaires de la rédaction, mais d'où vient l'expression « faire du gringue » Stéphane, je crois que vous le savez.
Oui.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Pour draguer, les jeunes disent aujourd'hui « tenter de pécho ». Les moins jeunes disent « faire les yeux doux ». Quant aux amoureux du temps jadis, en voie de fossilisation, ils disent « faire du gringue ». Le voilà, l'accordéon. C'est ce sacré loustique, ce zazou de Stéphane Bern qui nous raconte l'origine de cette expression « pas piquer des vers ».
Oui, une expression qui vous parle, Mathieu. Vous, le grand séducteur devant l'éternel.
C'est pas faux.
Séducteur un jour, séducteur toujours. Ouais. Et c'est vrai que toutes les stagiaires d'Europe 1 s'en souviennent.
Je vous en prie, Stéphane.
Vous avez l'habitude de faire du gringue, donc.
Oui, faire du gringue, c'est une expression un peu datée, un peu familière aussi.
J'aime quand vous prenez des pincettes pour me dire que mon expression est ringarde et totalement grossière.
J'ai bien pris des pincettes.
Au XVIe siècle, le grignon désignait dans certaines régions de France le pain. Cela donnera le quignon de pain. Grigner, c'est faire du pain, et le premier à avoir utilisé ce champ lexical pour le transposer à l'univers de la séduction, c'est le chansonnier réaliste Aristide Bruant. En 1901, il invente et popularise l'expression « faire du gringue » dans son dictionnaire de l'argot, où il écrit noir sur blanc cette formule. Il ajoute aussi « faire du plat », autre métaphore de séduction nourricière. Toujours à cette époque, il existait déjà la formule « faire des petits pains » envers quelqu'un, ce qui signifiait se faire bien voir à des fins libidineuses. Dévorer quelqu'un des yeux, mangeuse d'hommes, être à croquer, elles sont nombreuses, les figures de style qui mélangent la drague et la nourriture.
Et est-ce que chez nos voisins européens, on fait également du gringue, Stéphane?
Chez nos amis flamands, on dit faire cuire des petits pains sucrés. Mais c'est tout. En Allemagne, on dit râper de la réglisse, autre métaphore culinaire. Au Portugal, on dit aussi traîner l'aile, arrachar a asa.
Ah oui, 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 rachetaraz. Rachetaraz.
Traîner l'aile, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à visualiser.
Traîner l'aile.
Non, mais vous tournez tous vers moi, parce que c'est pas parce que c'est une expression portugaise qu'elle a du sens. Hein.
Ah, oui. Ah oui, d'accord, non, parce qu'on pensait que c'était carré.
Ça veut dire la même chose, ça c'est ce qu'on utilise pour dire la même chose. Faire du gringue, ça vient du pain, voilà, voilà, c'est nourricier. On des petites miches, voilà.
Est-ce que ce serait pas l'expression portugaise? Vous savez, les pigeons, quand ils font leur espèce de parade, truc, ils font des trucs un peu comme ça avec les ailes.
Faire le pan avec
lesquels ils balayent le sol un petit peu.
C'est peut-être faire le pan.
Oui.
Ça pourrait se rapprocher de ça.
Oui. Ou alors, vaut mieux éviter de poser des questions à Cassello parce qu'il va chercher des réponses très très loin.
Mais
c'est sa spécificité. Nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève et qui sait, il vous aura peut-être donné des idées ce week-end. Et si on se travestissait?
Moi, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 19 ans.
Vous serez notre guide. En attendant, Stéphane, laquelle de nos filles au masculin vous a le plus épaté aujourd'hui? Jean, Georges ou Chris? Moi, c'est Jeanne Barré, je le dis tout de suite.
Moi, j'aime beaucoup Georges Sand.
Mais c'est plus classique.
C'est très classique.
Moi, je ne connaissais pas bien l'histoire de Jean.
En tout cas, parce que l'histoire ne s'arrête jamais, le rire non plus, on se retrouve demain, mon cher Mathieu.
À demain, mon cher Stéphane et toute l'équipe, David, Olivier, à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.